Jules Barbet d'Aurevilly, Les Diaboliques, Le Rideau cramoisi, partie 4. Votre histoire est bonne, dit le vicomte de Brassard assez froidement. Dans un autre moment, peut-être en aurait-il joui davantage. Mais laissez-moi vous achever la mienne. J'avoue qu'avec une pareille fille, je ne fus pas inquiet 2 minutes de la destinée de mon billet. Elle avait beau être pendue à la ceinture de sa mère, elle trouverait bien le moyen de me lire et de me répondre. Je comptais même, pour tout un avenir de conversation par écrit, sur cette petite poste de par-dessous la table que nous venions d'inaugurer, lorsque le lendemain, quand j'entrai dans la salle à manger avec la certitude, très caressé au fond de ma personne, d'avoir séance tenante une réponse très catégorique à mon billet de la veille, je crus avoir la berlue, en voyant que le couvert avait été changé et que Mademoiselle Albert était placée là où elle aurait dû toujours être, entre son père et sa mère. Et pourquoi ce changement? Que s'était-il donc passé que je ne savais pas? Le père ou la mère s'étaient-ils doutés de quelque chose? J'avais Mademoiselle Albert en face de moi et je la regardais avec cette intention fixe qui veut être comprise. Il y avait 25 points d'interrogation dans mes yeux, mais les siens étaient aussi calmes, aussi muets, aussi indifférents qu'à l'ordinaire. Ils me regardaient comme s'ils ne me voyaient pas. Je n'ai jamais vu regard plus impatientant que ces longs regards tranquilles qui tombaient sur vous comme sur une chose. Je bouillais de curiosité, de contrariété, d'inquiétude, d'un tas de sentiments agités et déçus. Et je ne comprenais pas comment cette femme si sûre d'elle-même, qu'on pouvait croire qu'au lieu de nerfs, elle eût sous sa peau fine presque autant de muscles que moi, sembla ne pas oser me faire un signe d'intelligence qui m'avertit, qui me fit penser, qui me dit, si vite que ce put être, que nous nous entendions, que nous étions connivants et complices dans le même mystère, que ce fut de l'amour, que ce ne fut pas même de l'amour. C'était à se demander si vraiment c'était bien la femme de la main et du pied sous la table, du billet pris et glissé la veille si naturellement, dans son corsage, devant ses parents, comme si elle y eût glissé une fleur. Elle en avait tant fait qu'elle ne devait pas être embarrassée de m'envoyer un regard. Mais non, je n'eus rien. Le dîner passa tout entier sans ce regard que je guettais, que j'attendais, que je voulais allumer au mien et qui ne s'alluma pas. Elle aura trouvé quelque moyen de me répondre, me disais-je en sortant de table et en remontant dans ma chambre, ne pensant pas qu'une telle personne pût reculer après s'être si incroyablement avancée. N'admettant pas qu'elle pût rien craindre et rien ménager quand il s'agissait de ses fantaisies et, parbleu, franchement, ne pouvant pas croire qu'elle n'en eût au moins une pour moi. Si ses parents n'ont pas de soupçons, me disais-je encore, si c'est le hasard qui a fait ce changement de couvert à table, demain je me retrouverai auprès d'elle. Mais le lendemain, ni les autres jours, je ne fus placé auprès de Mademoiselle Albert, qui continua d'avoir la même incompréhensible physionomie et le même incroyable ton dégagé pour dire les riens et les choses communes qu'on avait l'habitude de dire à cette table de petits bourgeois. Vous devinez bien que je l'observais comme un homme intéressé à la chose. Elle avait l'air aussi peu contrariée que possible, quand je l'étais horriblement, moi, quand je l'étais jusqu'à la colère, une colère à me fendre en deux, et qu'il fallait cacher. Et cet air qu'elle ne perdait jamais me mettait encore plus loin d'elle que ce tour de table interposé entre nous. J'étais si violemment exaspérée que je finissais par ne plus craindre de la compromettre en la regardant, en lui appuyant sur ses grands yeux impénétrables et qui restaient glacés, la pesanteur menaçante et enflammée des miens. Était-ce un manège que sa conduite ? Était-ce coquetterie ? N'était-ce qu'un caprice ? Un caprice après un autre caprice ? Ou simplement stupidité ? J'ai connu depuis de ces femmes tout d'abord soulèvement de sens, puis après tout stupidité. Si on savait le moment, disait Ninon. Le moment de Ninon était-il déjà passé? Cependant, j'attendais toujours. Quoi? Un mot, un signe, un rien risqué, à voix basse, en se levant de table, dans le bruit des chaises qu'on dérange. Et comme cela ne venait pas, je me jetais aux idées folles, à tout ce qu'il y avait au monde de plus absurde. Je me fourrais dans la tête qu'avec toutes les impossibilités dont nous étions entourés au logis, elle m'écrirait par la poste, qu'elle serait assez fine quand elle sortirait avec sa mère pour glisser un billet dans la boîte aux lettres, et sous l'empire de cette idée, je me mangeais le sang régulièrement 2 fois par jour, 1 heure avant que le facteur passât par la maison. Dans cette heure-là, je disais 10 fois à la vieille Olive d'une voix étranglée « Y a-t-il des lettres pour moi, Olive ?» Laquelle me répondait imperturbablement toujours « Non, monsieur, il n'y en a pas. » Ah, l'agacement finit par être trop aigu. Le désir trompé devint de la haine. Je me mis à haïr cette Alberte et par haine de désir trompé, à expliquer sa conduite avec moi par les motifs qui pouvaient le plus me la faire mépriser. Car la haine a soif de mépris. Le mépris, c'est son nectar à la haine. « Coquine lâche qui a peur d'une lettre !» me disais-je. Vous le voyez, j'en venais aux gros mots. Je l'insultais dans ma pensée, ne croyant pas en l'insultant, la calomnier. Je m'efforçais même de ne plus penser à elle, que je criblais des épithètes les plus militaires quand j'en parlais à Louis Demain, car je lui en parlais, car l'outrance où elle m'avait jeté avait éteint en moi toute espèce de chevalerie, et j'avais raconté toute mon aventure à mon brave Louis, qui s'était tire-bouchonné sa longue moustache blonde en m'écoutant et qui m'avait dit, sans se gêner, car nous n'étions pas des moralistes dans le 27e, « Fais comme moi, un clou chasse l'autre, prends pour maîtresse une petite cousette de la ville et ne pense plus à cette sacrée fille-là. » Mais je ne suivis point le conseil de Louis. Pour cela, j'étais trop piquée au jeu. Si elle avait su que je prenais une maîtresse, j'en aurais peut-être pris une pour lui fouetter le cœur, ou la vanité, par la jalousie. Mais elle ne le saurait pas. Comment pourrait-elle le savoir? En amenant, si je l'avais fait, une maîtresse chez moi, comme Louis à son hôtel de la Poste, c'était rompre avec les bonnes gens chez qui j'habitais, et qui m'auraient immédiatement prié d'aller chercher un autre logement que le leur. Et je ne voulais pas renoncer, si je ne pouvais avoir que cela, à la possibilité de retrouver la main ou le pied de cette damnante Alberte qui, après ce qu'elle avait osé, restait toujours la grande mademoiselle impassible. « Dis plutôt « impossible », disait Louis, qui se moquait de moi. Un mois tout entier se passa, et malgré mes résolutions de me montrer aussi oublieux qu'Alberte et aussi indifférent qu'elle, d'opposer marbre à marbre et froideur à froideur, je ne vécus plus que de la vie tendue de l'affût que je déteste, même à la chasse. Oui, monsieur, ce ne fut plus qu'affût perpétuel dans mes journées. Affût quand je descendais à dîner et que j'espérais la trouver seule dans la salle à manger, comme la première fois. Affût au dîner, où mon regard ajustait de face ou de côté le sien qu'il rencontrait net et infernalement calme, et qui n'évitait pas plus le mien qu'il n'y répondait. Affût après le dîner, car je restais maintenant un peu après dîner voir ces dames reprendre leur ouvrage dans leur embrasure de croisée, guettant si elles ne laisseraient pas tomber quelque chose, son dé, ses ciseaux, un chiffon, que je pourrais ramasser et, en les lui rendant, toucher sa main, cette main que j'avais maintenant à travers la cervelle. Affût chez moi, quand j'étais remontée dans ma chambre, y croyant toujours entendre le long du corridor ce pied qui avait piétiné sur le mien avec une volonté si absolue. Affût jusque dans l'escalier, où je croyais pouvoir la rencontrer, et où la vieille Olive me surprit un jour, à ma grande confusion, en sentinelle. Affût à ma fenêtre, cette fenêtre que vous voyez, où je me plantais quand elle devait sortir avec sa mère, et d'où je ne bougeais pas avant qu'elle fût rentrée. Mais tout cela aussi vainement que le reste. Lorsqu'elle sortait, tortillée dans son châle de jeune fille, un châle à raies rouges et blanches, je n'ai rien oublié, semé de fleurs noires et jaunes sur les deux raies, elle ne retournait pas son torse insolent une seule fois. Et lorsqu'elle rentrait, toujours aux côtés de sa mère, elle ne levait ni la tête ni les yeux vers la fenêtre où je l'attendais. Tels étaient les misérables exercices auxquels elle m'avait condamné. Certes, je sais bien que les femmes nous font tous plus ou moins valeter, mais dans ces proportions-là, le vieux fa qui devrait être mort en moi s'en révolte encore. Ah, je ne pensais plus au bonheur de mon uniforme. Quand j'avais fait le service de la journée, après l'exercice ou la revue, je rentrais vite, mais non plus pour lire des piles de mémoires ou de romans, mais seule lecture dans ce temps-là. Je n'allais plus chez Louis demain. Je ne touchais plus à mes fleurets. Je n'avais pas la ressource du tabac qui engourdit l'activité quand elle vous dévore, et que vous avez, vous autres jeunes gens qui m'avez suivi dans la vie. On ne fumait pas alors au 27e, si ce n'est entre soldats au corps de garde, quand on jouait la partie de brisque sur le tambour. Je restais donc oisif de corps à me ronger. Je ne sais pas si c'était le cœur, sur ce canapé qui ne me faisait plus le bon froid que j'aimais dans ces 6 pieds carrés de chambre, où je m'agitais comme un lionceau dans sa cage, quand il sent la chair fraîche à côté. Et si c'était ainsi le jour, c'était aussi de même une grande partie de la nuit. Je me couchais tard, je ne dormais plus, elle me tenait éveillée, cette Alberte d'enfer, qui me l'avait allumée dans les veines, puis qui s'était éloignée, comme l'incendiaire qui ne se retourne pas même la tête pour voir son feu flamber derrière lui. Je baissais, comme le voilà, ce soir. Ici le vicomte passa son gant sur la glace de la voiture placée devant lui pour essuyer la vapeur qui commençait d'y perler. Je baissais ce même rideau cramoisi à cette même fenêtre, qui n'avait pas plus de persiennes qu'elle n'en a maintenant, afin que les voisins, plus curieux en province qu'ailleurs, ne dévisagent pas le fond de ma chambre. C'était une chambre de ce temps-là, une chambre de l'Empire, parquetée en point de Hongrie, sans tapis, où le bronze plaquait partout le merisier, d'abord en tête de sphinx aux 4 coins du lit, et en pattes de lion sous ses quatre pieds. Puis, sur tous les tiroirs de la commode et du secrétaire, encamés de face de lion, avec des anneaux de cuivre pendant de leur gueule verdâtre, et par lesquels on les tirait quand on voulait les ouvrir. Une table carrée d'un merisier plus rosâtre que le reste de l'ameublement, à dessus de marbre gris, grillagée de cuivre, était en face du lit, contre le mur, entre la fenêtre et la porte d'un grand cabinet de toilette. Et vis-à-vis de la cheminée, le grand canapé de maroquin bleu dont je vous ai déjà tant parlé. À tous les angles de cette chambre d'une grande élévation et d'un large espace, il y avait des encoignures en faux laque de Chine, et sur l'une d'elles, on voyait, mystérieux et blanc, dans le noir du coin, un vieux buste de Niobé d'après l'antique, qui étonnait là chez ces bourgeois vulgaires. Mais est-ce que cette incompréhensible Alberte n'étonnait pas bien plus? Les murs lambrissés et peints à l'huile, d'un blanc jaune, n'avaient ni tableau ni gravure. J'y avais seulement mis mes armes, couchées sur de longues pattes fiches, en cuivre doré. Quand j'avais loué cette grande calebasse d'appartement, comme disait élégamment le lieutenant Louis Demain qui ne poétisait pas les choses, j'avais fait placer au milieu une grande table ronde que je couvrais de cartes militaires, de livres et de papiers. C'était mon bureau. J'y écrivais quand j'avais à écrire. Eh bien, un soir, ou plutôt une nuit, j'avais roulé le canapé auprès de cette grande table et j'y dessinais à la lampe. Non pas pour me distraire de l'unique pensée qui me submergeait depuis un mois, mais pour m'y plonger davantage, car c'était la tête de cette énigmatique Alberte que je dessinais. C'était le visage de cette diablesse de femme dont j'étais possédée, comme les dévots disent qu'on l'est du diable. Il était tard. La rue, où passaient chaque nuit deux diligences en sens inverse, comme aujourd'hui, l'une à minuit trois quarts et l'autre à 2h30 du matin, et qui toutes deux s'arrêtaient à l'hôtel de la Poste pour relayer, la rue était silencieuse comme le fond d'un puits. J'aurais entendu voler une mouche, mais si par hasard il y en avait une dans ma chambre, elle devait dormir dans quelque coin de vitre ou dans un des plis cannelés de ce rideau, d'une forte étoffe de soie croisée que j'avais ôtée de sa patère et qui tombait devant la fenêtre, perpendiculaire et immobile. Le seul bruit qu'il y eut alors autour de moi, dans ce profond et complet silence, c'était moi qui le faisais avec mon crayon et mon estompe. Oui, c'était elle que je dessinais, et Dieu sait avec quelle caresse de main et quelle préoccupation enflammée. Tout à coup, sans aucun bruit de serrure qui m'aurait averti, ma porte s'entr'ouvrit en flûtant ce son des portes dont les gonds sont secs et resta à moitié entrebâillée, comme si elle avait eu peur du son qu'elle avait jeté. Je relevai les yeux, croyant avoir mal fermé cette porte, qui d'elle-même, inopinément, s'ouvrait en filant ce son plaintif, capable de faire tressaillir dans la nuit ceux qui veillent et de réveiller ceux qui dorment. Je me levai de ma table pour aller la fermer. Mais la porte entr'ouverte s'ouvrit plus grande, et très doucement toujours, mais en recommençant le son aigu qui traîna comme un gémissement dans la maison silencieuse, et je vis, quand elle se fut ouverte de toute sa grandeur, Alberte. Alberte, qui, malgré les précautions d'une peur qui devait être immense, n'avait pu empêcher cette porte maudite de crier. « Ah, tonnerre de Dieu, Ils parlent de vision, ceux qui y croient. Mais la vision la plus surnaturelle ne m'aurait pas donné la surprise, l'espèce de coup au cœur que je ressentis et qui se répéta en palpitations insensées quand je vis venir à moi, de cette porte ouverte, Alberte, effrayée au bruit que cette porte venait de faire en s'ouvrant et qui allait recommencer encore si elle la fermait. Rappelez-vous toujours que je n'avais pas 18 ans. Elle vit peut-être ma terreur à la sienne. Elle réprima, par un geste énergique, le cri de surprise qui pouvait m'échapper, qui me serait certainement échappé sans ce geste, et elle referma la porte, non plus lentement, puisque cette lenteur l'avait fait crier, mais rapidement, pour éviter ce cri d'aigon, qu'elle n'évita pas et qui recommença plus net, plus franc, d'une seule venue et suraiguë. Et la porte fermée et l'oreille contre, elle écouta si un autre bruit, qui aurait été plus inquiétant et plus terrible, ne répondait pas à celui-là. Je crus l'avoir chancelé. Je m'élançai et je l'eus bientôt dans les bras.